Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Faisons une lecture dans une des épîtres de l'apôtre Paul, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, s'il vous plaît. Et nous allons lire ce passage. Voilà, Thessaloniciens. Chapitre 5, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Voilà pour tout simplement cette situation dans notre Bible, dans notre méditation. L'apôtre Paul évoque un fait remarqué chez les Corinthiens, notre épître naturellement, et ce fait c'est une certaine ignorance, d'ailleurs il l'écrira, il dira ceci: « Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance ». Alors vous savez où se situe ce passage, c'est autour de la doctrine des dons spirituels. Et l'apôtre Paul voulait dire à ses lecteurs, ce qu'il avait remarqué, c'est qu'ils étaient dans une certaine ignorance par rapport aux dons spirituels. Mais ce matin, tout autre est l'objet de notre réflexion, mais un sujet qui est aussi méconnu, ou même ignoré, qu'est la constitution de la personne humaine. Alors, c'est peut-être un grand mot, mais je vais m'expliquer quand même. Parce que j'ai donné cette introduction en lisant un autre texte ce matin, que c'est vrai que ce que nous allons voir, c'est peut-être pas facile à appréhender, mais c'est pourtant une réalité. Et en abordant ce sujet, je pense que ça peut aider les uns et les autres à mieux nous comprendre. Mieux nous comprendre d'abord personnellement. Et puis mieux nous comprendre et peut-être à gérer notre vie en Église. Et je pense que nous avons besoin de prendre toute la mesure de ce que Paul nous dit dans ce qui va être défini. Et quand il dit « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance ». Alors peut-être, si avant de commencer notre méditation, je posais quelques questions sur ce qu'est le corps, vous sauriez me répondre. Si je vous demande ce qu'est l'âme, vous allez peut-être avoir une idée. Et sur ce qu'est l'esprit. Alors on va voir ça. Parce que la constitution de l'homme, ce que Paul appelle l'être, eh bien englobe le physique, le corps, en grec corpus, le psychisme, plus communément appelé l'âme, ou l'être moral, et puis l'esprit avec un petit e, naturellement. Nous remarquons bien l'ordre dans lequel l'apôtre fait l'énumération, et cette énumération et cet ordre n'est pas fortuit. Parce qu'en premier lieu, il y a l'esprit. En deuxième lieu, il y a l'âme, et en troisième lieu, il y a le corps. Et ce n'est pas pour rien que Paul a donné cet ordre-là. Parce que nous allons, dans notre considération, voir que finalement, c'est souvent dans le contraire que ça se passe. Que les choses sont complètement inversées. Et on comprend qu'il y ait des problèmes. Quand l'ordre créationnel fonctionne à l'envers, automatiquement, il ne peut y avoir que des problèmes. Ce n'est pas possible. On est peut-être très surpris de voir que beaucoup ont une notion confuse, et ça je l'ai remarqué dans le peuple de Dieu, une notion imprécise de ce qu'est l'âme et de ce qu'est l'esprit. Et quelquefois quand on pose des questions, on s'aperçoit qu'il y a une grande ignorance. Certains les confondent et les amalgament, et on ne sait plus tellement ce qu'est l'âme, ce qu'est l'esprit. En ce qui concerne le corps, c'est clair, de, quand même, dans l'ensemble, hein, c'est la matière, c'est le physique, on sait à peu près ce que c'est, parce que finalement, c'est tellement visible, c'est tellement palpable, hein, on voit à peu près de qui il s'agit. Mais quand il s'agit de l'âme, alors là, c'est autre chose, et puis l'esprit, c'est assez confondu. On connaît davantage le corps, parce que bon, on l'a appris, hein, d'ailleurs ça fait partie de notre éducation scolaire, mais on sait peut-être moins ses incidences, les incidences du corps, qui fonctionnent avec des appétits, avec des instincts, sur les deux autres, et resituer le corps à sa vraie place dans cette affaire. La Bible ne sépare pas ces trois éléments. Vous avez vu comment Paul écrit l'esprit, l'âme et le corps. Il ne sépare pas. Et nous voyons que la Bible, la parole de Dieu, replace, pour l'harmonie et l'équilibre, la position qui revient à chacun. Et Dieu ne répugne pas l'un au profit de l'autre, ou ne sous-estime pas l'un au profit de l'autre. Mais je crois qu'il a donné une place, finalement, dans notre humanité. Nous allons nous arrêter quelques instants sur l'ordre de présentation de Paul. Esprit, âme et corps. Ce faisant, Paul replace dans l'ordre originel ce que la chute a inversé, parce qu'il faut reprendre finalement les choses à partir de Genèse 3. Genèse 2, c'est la constitution de l'homme selon la pensée de Dieu, selon ce que Dieu avait voulu, et dans l'harmonie et dans un fonctionnement normal. Mais après la chute, à cause du péché, eh bien les choses ont été complètement inversées. Le péché, nous pouvons dire, si je peux m'exprimer en parlant de cette manière, a interverti, donnant la prééminence au corps d'abord. Le corps, objet de toutes les attentions dans une société matérialiste dans laquelle nous sommes, n'est-ce pas, nous donnons beaucoup de soins au corps. Bon, c'est normal, parce que bon, nous devons l'entretenir. Et ce serait faux de penser que nous devons finalement mortifier le corps, comme certains religieux peut-être, ou certains mystiques le font. Mais lui donner sa place, c'est vrai. Lequel s'est assujetti une âme désorientée, qui est devenue, nous pouvons dire, entre l'esprit et le corps, comme une sorte de girouette. Passez-moi l'expression, mais je vais prendre des images. Une sorte de girouette qui ne sait plus tellement si ça vient d'en haut, si ça vient d'en bas. Et puis, quant à l'esprit, il a été totalement gommé, au point d'être inexistant, d'être étouffé et d'être occulté. C'est pour ça que quand on fait de l'évangélisation et qu'on annonce la vie de l'esprit, la première chose que les gens et que nous avons pris conscience, c'est que finalement il y a une dimension supérieure. Pas une dimension humaine, pas une dimension seulement morale. Et Jésus, quand il nous parle dans ce texte où il est parlé de Nicodème, si un homme ne naît d'esprit, s'il ne naît de nouveau, alors on comprend que les choses sont remises en place à ce moment-là. Et la véritable vie spirituelle, nous pourrions dire notre communion avec le Seigneur, eh bien elle commence finalement par une prise de conscience, et Dieu donne tout à nouveau, enfin, je dirais, il donne naissance à un être spirituel. La repentance, la conversion, la nouvelle naissance. Alors que, avant que nous étions convertis les uns et les autres, bah, notre esprit, qu'est-ce que c'est? On disait, il est spirituel. Mais quand on dit spirituel dans le monde, ça veut dire il est drôle, il est humoristique, oui, il est drôle. Mais ça ne veut rien dire, ça. Ce sont des mots, mais qui ne veulent rien dire. Quand on se replace dans la Bible, on s'aperçoit que ça n'a rien à voir. Alors il est donc de première importance de bien saisir cette notion, car le chrétien peut être trompé, il peut être illusionné, il peut être paralysé, et tout cela victime de son ignorance sur la question. Et c'est pour ça que, en tant que prédicateur, je me dois d'enseigner l'Église sur ces choses. Et si ça a été écrit dans la Bible, c'est que je l'utilisais. Et nous allons en prendre en considération ce que ça veut dire. Nous lisons le texte, que Dieu, bien, que soyez sanctifiés tout entiers, que tout votre être, âme, esprit, et puis le corps soit conservé irréprochable. Mais qu'est-ce que nous en tirons finalement? Et il faut aller beaucoup plus avant, il faut quelque part faire l'étude de ce texte pour savoir ce que ça veut dire. Parce qu'il y a tout un enseignement, et un enseignement précieux, fondamental, essentiel, pour nous en tant que chrétiens. Eh bien, le méconnaître, c'est s'ignorer soi-même. Et je crois que nous sommes appelés à bien nous connaître. Et si nous voulons connaître les autres, commençons par nous connaître nous-mêmes. Ça, c'est une chose. Les conséquences de cette ignorance vont au-delà, car cela est attaché à un grand nombre de douleurs. Et c'est ce que nous remarquons dans les églises et parmi le peuple de Dieu. Des combats inutiles. Un état de dépression, parfois, chez l'enfant de Dieu. l'inefficacité dans le service, et puis un épuisement moral et spirituel. Parce que les choses fonctionnent à l'envers. Parce que les choses peuvent fonctionner à l'envers. Alors il y a dysfonctionnement résumé par deux mots. Fonctionner par l'âme ou le psychisme, selon l'impératif ou selon l'impératif chrétien, fonctionner par l'esprit. C'est ce que nous avons lu. Et c'est ce que nous lisons dans la Bible. Nous fonctionnons tantôt sur un régime qui est le régime du psychisme de l'âme, ou alors nous fonctionnons par l'esprit. Et toute la parole de Dieu nous demande de fonctionner par l'esprit. Cette proclamation, soyez spirituels. Soyez des hommes spirituels, soyez des hommes faits en Jésus-Christ. Et puis bien d'autres choses. Et en opposition, Paul est obligé de dire, mais je vous considère comme des petits-enfants. Vous en êtes encore au lait. Mais quand il est question d'être spirituel, parce que quand je dis cela, ce n'est pas littéralement cité dans la Bible. Mais la pensée dominante, en opposition avec notre faiblesse, trop souvent constatée, et constatée dans l'Église primitive, c'est pour ça que nous avons les épîtres. Et quand Paul a écrit les monuments théologiques et doctrinaux comme Romains, comme Corinthiens, comme Galates, comme Colossiens par exemple, c'est justement pour remettre les choses en place. Alors, ce fonctionnement qui se fonde sur, le charnel, sur sur l'âme, fait des chrétiens charnels. Voilà, c'est ça, c'est la qualification, le qualificatif qui est donné, chrétien charnel. Trop de chrétiens sincères, et ça n'enlève rien à leur sincérité, se méprennent sur les agissements de l'âme et ceux de l'esprit, parce qu'ils ne connaissent pas suffisamment les règles qui les régissent. Et je crois que ça fait partie de l'enseignement dans un culte qui doit être donné. La vie de l'esprit est authentiquement spirituelle. D'ailleurs, c'est le même mot. Esprit, spirituel. Celle de l'âme, à moins qu'elle ne soit prise en sous-main par le Saint-Esprit, alors là, ça change, et on en parlera tout à l'heure, demeure humaine, demeure charnelle, et à l'extrême, peut devenir quelquefois diabolique, selon ce que nous dit Jacques au chapitre 3 et au verset 15. Quand il dit, mais voilà, leur attitude est une attitude de sagesse, c'est vrai, mais de sagesse humaine, de sagesse charnelle. Et il dira même, quelquefois il y a même des prises à l'adversaire, diaboliques. Alors nous allons voir le processus de la chute, parce qu'on ne peut pas aborder ce sujet sans voir ce qui s'est passé au départ. Qu'est-ce qui était à l'origine de ce dysfonctionnement? Qu'est-ce qui était à l'origine de cette casse, finalement, d'une si belle réalisation de Dieu, d'une si belle création? À l'origine, Dieu a créé l'homme avec ces trois aspects, esprit, âme et corps. Et il nous est précisé dans la Bible, et ça c'est important de le rappeler, qu'il a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire sur le sens de, pas physique, mais sur le plan moral, sur le plan intellectuel et certainement d'autres aspects. Et nous voyons qu'il y a là cette émergence de l'ego dont la Bible nous parle, du moi, de l'âme, du cœur, qui était à l'origine de la création, eh bien, le temple, le réceptacle en quelque sorte de la vie de Dieu. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17-18. Et puis le Saint-Esprit devait jouer un rôle d'éclairer chez l'homme ses yeux, d'être la sagesse de l'esprit humain et la force de sa volonté. Et parce que ça venait d'en haut, eh bien, il n'y avait pas de problème, ça fonctionnait tout à fait normalement. Nous pouvons dire que, finalement, Dieu avait insufflé ce courant de vie, cette puissance de vie, et ça fonctionnait. Mais à partir du moment où il y a la chute, alors les choses ont été complètement inversées. Jusque-là, et jusqu'au chapitre 2 du livre de la Genèse, tout était en ordre jusqu'au moment de l'acte de rébellion. Et nous pouvons considérer, finalement, comme une pyramide. C'est-à-dire que la pyramide a été complètement renversée. Une pyramide, il y a une base très très large, et puis après, ça va jusqu'à une pointe. Mais là, c'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous pouvons voir que, eh bien, il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Quand Dieu avait fait, c'était là-bas, c'était l'esprit. Ensuite, il y avait, on peut signifier ça comme ça, si on veut prendre une image géométrique, l'âme. Et puis, le corps était finalement, eh bien, ce qui permettait à l'homme de vivre sur cette terre, matériellement, dans un corps. Mais avec la chute, eh bien, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est le corps qui a pris toute la base, qui est la plus grande partie. Et puis finalement, il ne reste qu'une petite pointe, c'est-à-dire l'esprit. Si encore il existe. Si encore il existe. Alors on voit que toutes les choses ont été inversées. C'est-à-dire que le corps, l'élément inférieur, a pris le dessus. par ses instincts, par ses pulsions et ses désirs. Et encore autre chose, l'âme, siège de la personnalité, parce que là, l'âme, je dois l'expliquer, c'est le siège de la personnalité, est devenue l'esclave du corps. Et que le premier, l'esprit, celui qui était le premier, est devenu le dernier. C'est-à-dire que l'esprit a été neutralisé, dépossédé de son autorité. Et maintenant, avec la foi, et c'est pourquoi l'évangile est annoncé, la nouvelle naissance, l'action de Christ en nous, la grande entreprise de Dieu, c'est de renverser, en quelque sorte, ce mécanisme qui est faussé dès le départ. Et la conversion, c'est ça. La nouvelle naissance, c'est ça. C'est de remettre l'humanité, ou de remettre l'homme, finalement, dans un fonctionnement normal. C'est pour ça qu'il ne faut pas se méprendre. C'est que nous n'avons pas d'autre choix que de vivre la vie spirituelle. Parce qu'autrement, eh bien, nous ne pouvons pas prendre, fonctionner sous un régime et fonctionner dans un autre, c'est ce que Paul dit. La chair, eh bien finalement, c'est la chair et elle conduit à la mort, mais la vie de l'esprit, c'est la vie. Et on ne peut pas finalement faire l'amalgame en disant « je vis un petit peu dans la chair, je vis un petit peu dans l'esprit », parce que ça ne peut pas marcher ensemble. Il faut qu'il y ait une dominante de l'un sur l'autre et que les choses soient remises en place. C'est-à-dire qu'il faut retrouver la chute, il faut retrouver, pardon, l'ordre perdu par la chute. C'est pour ça que tous les efforts qui sont donnés, et je considère que l'évangile et que la vie spirituelle, c'est pas du social, c'est pas de l'humanitaire, ce n'est pas de l'émotionnel, ce n'est pas du psychisme, ce n'est pas tout ce que vous voudrez, c'est la vie spirituelle émane finalement de notre communion et de notre relation avec Dieu. Et si nous sommes en relation comme il faut que nous le soyons, alors à ce moment-là, les choses vont être remises en ordre. Pour expliquer, nous allons examiner ce qu'est l'âme humaine, ses fonctions, son rôle, sa place. En grec, l'âme se nomme psyché. En latin, anima. Anima, ça vous dit quelque chose? Le côté animal. Hein, anima. Elle est le siège du sentiment de soi. J'ai la conscience d'être, tout simplement. Je suis. C'est la demeure de l'ego, du moi. L'âme confère l'intelligence nécessaire à l'existence terrestre. Je sais. Je suis. Cette conscience d'être qui perçoit les émotions émanant des sens captés par le corps. Et je le rappelle, la vue, l'odorat, les odeurs, l'ouïe, et puis d'autres choses comme ça. Le froid, la chaleur, la souffrance, le plaisir. Et la Bible nous dit que l'âme n'est pas l'élément supérieur de notre nature, c'est l'esprit. Et je veux encore le dire, c'est l'esprit, c'est pas l'âme. L'esprit procède de Dieu et c'est lui qui nous donne le sentiment de Dieu. C'est pas l'âme qui nous permet de comprendre ce qui est divin et d'adorer Dieu. Paul le définit clairement à travers ces paroles assez difficiles, il faut le comprendre, il faut le reconnaître. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, et au verset 14 et 15, il est parlé justement de ces choses difficiles. Il dit, mais l'homme naturel, on peut l'appeler l'homme naturel, vous savez, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est pas lui-même jugé par personne. Ce sont des propos quand même assez difficiles, faut le reconnaître. Mais toujours est-il qu'ils ont mérité d'être écrits et ils sont là aussi pour notre instruction. Alors, nous sommes devant, c'est vrai, des choses qu'il faut prendre en considération. L'âme est le siège de la personnalité, avons-nous dit tout à l'heure. La volonté, l'intelligence, la pensée, les émotions et certainement encore autre chose que je passe, elle se place entre le corps et l'esprit. L'esprit lui ouvre le monde spirituel quand ça fonctionne bien. Ou à l'inverse, c'est le corps qui l'enferme dans le monde matériel et sensuel. L'âme est au milieu. Tout à l'heure, on a parlé d'une girouette. Si les choses sont bien calées selon la pensée de Dieu et dans l'ordre créationnel, eh bien ça fonctionne. Mais pourquoi y a-t-il tant de tiraillements, tant de dualités, tant de conflits finalement quelquefois au sein de nos propres personnes, c'est parce que justement il y a des aspirations d'en haut et puis des aspirations d'en bas. Et nous voyons que Le corps, quand ça fonctionne mal, eh bien, va enfermer l'âme dans ce monde matériel et sensuel. Et ça, c'est le dilemme auquel nous sommes confrontés. Le choix que nous avons à faire en permanence. Est-ce que j'écoute l'esprit ou est-ce que j'écoute finalement les appels de l'inférieur? Et c'est ça les combats et les dualités que nous pouvons avoir. Elle peut incliner ses aspirations vers le supérieur, c'est-à-dire vers Dieu. C'est pour ça qu'il nous est dit « aspirez aux choses d'en haut » et « ne vous préoccupez pas des choses de la terre », enfin des choses qui sont en bas. Ou alors, eh bien, se rabaisser vers le bas et se laisser dicter par les sens, c'est-à-dire la chair, le corps. Alors à ce moment-là, c'est tout le combat finalement décrit dans Romains chapitre 7, où Paul dit « Je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que finalement, eh bien, ce que je crois être bien, mais je fais le contraire de ce que je crois être bien. » Et Paul est un homme, c'est un chrétien, hein, il ne faut pas l'oublier. Et on voit qu'il écrit d'une manière admirable dans Romains chapitre 7 les conflits qu'il a eus lui-même. Et il dit à un moment donné, sous une forme d'explosion, « Mais misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Parce qu'il sent bien que malgré sa volonté, malgré sa spiritualité, malgré qu'il aime le Seigneur, malgré ceci, cela, etc., eh bien finalement il est encore attaché à cette terre. Et il parlera même d'un corps d'humiliation auquel il soupire être dégagé à un moment donné. Et ça c'est bien nous, hein. Même si on ne s'appelle pas Paul. Hein, c'est bien nous. Et ce combat donc est décrit dans Romains chapitre 7, vous pourrez le relire. Et la dualité est particulièrement significative dans Galates, par exemple, au chapitre 5 et au verset 16, quand il est dit ceci, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux. » Vous voyez le mot « opposition », hein ?« Afin que nous fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Parce que la loi, elle se situe où dans cette affaire? La loi, elle se régale, finalement, de cette position d'hésitation. Elle est là pour nous apprendre, elle est sainte, elle est juste, elle vient de Dieu. Mais le problème, ce n'est pas dans la loi qu'est le problème, c'est moi le problème. Et c'est le péché qui est en moi, et c'est le péché qui est dans le monde. Avant la chute, l'esprit gouvernait l'âme, et cette même âme influençait la vie du corps. Ainsi, la créature se réalisait dans le but assigné par le Créateur. Et les choses fonctionnaient normalement. Mais l'âme s'étant affaissée dans l'ordre inférieur, l'esprit a suivi, il a déchu, il a été faussé, et il est devenu sans force, il est devenu, nous pourrions dire, incapable de participer à la vie divine. Et pourtant, cet esprit doit nous mettre en contact avec la vie divine, puisque c'est lui qui nous donne la conscience. De Dieu, qui nous donne finalement, eh bien là, de pouvoir rentrer en communion et en relation avec Dieu, et d'adorer Dieu. Et là, on voit qu'il est sans force, l'esprit. La désobéissance du jardin d'Éden peut être qualifiée de désastre. Je crois qu'il n'y a pas à minimiser dans la Bible. Je pense que les mots les plus forts qui sont dans le vocabulaire de notre langue peuvent véritablement être attribués à ce qui s'est passé. C'est un véritable désastre. Depuis des temps, depuis des générations, depuis que l'homme est l'homme, depuis les temps immémoriaux, quand on voit ce que l'homme est capable, en mal, dans son ingéniosité à faire le mal, on se dit, mais quelle déchéance! Et on parle de corruption, on parle d'iniquité, on parle d'un effondrement, tout simplement. Car en conséquence, l'esprit humain s'est retranché dans l'âme, elle-même s'est reployée sur le corps, ce qui fait que depuis, l'âme règne sans contrôle par des instincts inférieurs, tantôt par une intelligence dévoyée ou par une bestialité, parce que ça va jusque-là. Quand on parle d'anima, anima, âme, bestialité, civilisée ou non. Et quand on voit ce que, je le disais il y a un instant, quand on voit ce que l'homme est capable de faire, avec son intelligence dévoyée, son intelligence corrompue, que ce soit dans les civilisations les plus primitives sur notre planète, ou que ce soit le raffinement de l'esprit, par exemple, des systèmes type nazi ou stalinien, dans la souffrance et dans la destruction de nos semblables, je me dis, mais alors, là, on est véritablement loin du compte. C'est quelque chose d'affreux. C'est en cela que l'on mesure toute l'importance essentielle de la doctrine de la nouvelle naissance. À partir du moment, s'il n'y avait pas de nouvelle naissance, il n'y aurait pas de salut. ou plutôt le contraire, il faut d'abord le salut et puis après la nouvelle naissance, où ça va ensemble. Et c'est pour ça que toute la doctrine de Jésus, la doctrine de l'Évangile, est fondée sur « repentez-vous, convertissez-vous et naissez de nouveau ». Autrement, l'homme peut être religieux. Ça sera un animal religieux, si vous voulez. Il va fonctionner dans sa religion avec son âme. Alors il peut chanter des beaux cantiques, il peut avoir des choses extraordinaires et qui peuvent nous éblouir, etc., etc. Mais ça restera toujours au niveau, finalement, du charnel. Et avec le charnel, on ne peut pas plaire à Dieu. Il faut que ce soit dans l'esprit. Et il faut que ce soit l'esprit qui conduise notre âme, qui sanctifie notre âme. Et après, notre âme va prendre le dessus sur notre corps. Et avec notre corps, on ne fera pas n'importe quoi. Même dans le cultuel. Je dis bien même dans le cultuel. Il y en a qui partent même dans le cultuel à faire des choses qui sont complètement aberrantes. Hein. Qui roulent par terre, enfin, qui crient, enfin, toutes sortes de choses. Vous connaissez peut-être pas ça, mais on connaît. Et on dit c'est spirituel. Mais non, c'est pas spirituel. Ça n'a plus rien à voir avec la vie d'esprit. Je dis ça parce que ça vient de plus en plus. Enfin, ça s'est toujours fait, remarquez. C'est une aberration et c'est une séduction. Alors, Jésus nous parle de Nicodème, dans Jean chapitre 3, où l'esprit de l'homme obscurci est d'abord vivifié, il est renouvelé, il retrouve sa vraie place, c'est-à-dire que son esprit peut dominer à ce moment-là, que le corps, qui est l'enveloppe matérielle que nous connaissons bien, redevient le serviteur de l'esprit et que l'âme joue son rôle d'intermédiaire du haut vers le bas, et non pas du bas vers le haut. Et non plus, finalement, eh bien là, trouvant ses aspirations vers le bas avec la sensualité, avec nos instincts, avec nos appétits, avec nos désirs, mais ça vient du haut à ce moment-là, c'est autre chose. C'est ça la dualité. C'est ça les choix permanents que nous avons à faire. Et c'est ça ce qui quelquefois rend malade les chrétiens. Mais on l'apprend, hein. De toute façon, on n'est pas du jour au lendemain, excusez-moi, mais on n'est pas du jour au lendemain spirituel. Ça se fait avec le temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous décourager. Vous avez des combats, vous avez des luttes, mais le Seigneur le sait. Mais prenez courage, parce que vous avez remarqué avec moi, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera, si vous le voulez bien. Hein. Parce que si vous dites non au Seigneur, il ne fera rien. Mais à partir du moment où nous voulons véritablement arriver et nous élever, vivre une vie qui soit digne de notre Dieu, c'est-à-dire une vie spirituelle, qui contrôle tout le reste, alors à ce moment-là, le Seigneur va le faire. Et ne vous culpabilisez pas à outrance, parce que vous n'y arrivez pas. Vous allez y arriver. Et nous allons y arriver si nous-mêmes nous engageons notre volonté, notre cœur et notre vie entière en disant « Seigneur ». Et il va y avoir des chutes. Et il va y avoir des essais ratés. Il va y avoir des choses où vous allez peut-être désespérer de vous-même. Et c'est en désespérant de vous-même que justement le Seigneur va pouvoir faire les choses. Parce que tant que vous ne désespérez pas de vous-même et tant qu'on ne désespère pas de nous-mêmes, c'est qu'on se croit encore capable d'y arriver. C'est l'inverse finalement de ce que nous pensons. Parce que ça, c'est comme ça. Si le Seigneur nous a appelés, c'est parce qu'il sait très bien qu'on n'est pas capable d'y arriver. Donc la nouvelle naissance est là. Et c'est le commencement, ou je dirais que c'est le recommencement d'une longue opération de restauration. Et on parle d'apprentissage, on parle de rééducation. Vous savez que nous sommes tous en rééducation. Enfin, vous n'avez peut-être pas le sentiment, mais... Eh oui, depuis notre conversion, nous sommes là à regagner du terrain pour une versée de vie nouvelle. Et nous sommes tous malades, quelque part. Et Dieu a choisi des malades. Parce que ceux qui pensent être bien portants selon ce que Jésus nous dit, bah finalement ils sont tellement suffisants, c'est qu'ils n'ont pas besoin de salut. C'est parce que nous savons que nous avons besoin du Seigneur dans notre vie. On constate encore chez le chrétien que l'âme n'est pas toujours totalement dégagée. Et ça, je le sais. Vous le savez aussi. Quelquefois, on s'en aperçoit beaucoup plus chez les autres que chez nous. Alors qu'on devrait peut-être regarder quelquefois à notre porte. Hein? C'est là ce qui fait les jugements entre nous. Et des jugements qui ne sont pas toujours bienveillants et quelquefois qui ne sont pas toujours très complaisants. Mais regardons d'abord chez nous. Il y a des désordres dans le peuple de Dieu et des excès de l'âme. Et il y a deux catégories qui sont mentionnées dans la Bible. Il y a le chrétien charnel et le chrétien psychique. Vous allez dire, à première vue, c'est le même. C'est vrai que ça peut être le même. Mais il y a quand même quelque chose à dire entre le chrétien charnel et le chrétien psychique. Un chrétien spirituel, nous avons trois types dans l'Ancien Testament. Il y a Abraham, c'était le chrétien spirituel. Un chrétien charnel, c'était Lot, qui ne marchait qu'avec ce qu'il voyait. Il vit, il est allé. Il était dans le désastre. Et puis le chrétien psychique, c'est Jacob, dont nous avons parlé, tiens, la semaine dernière. Donc les trois catégories, Abraham, le spirituel, Lot, le charnel, vraiment. Hein. Et puis le psychique, avec beaucoup de raffinement, Jacob. Hein. Et il aimait le Seigneur. Hein. Mais alors, attendez, hein. Il était capable de mentir, il est capable de tromper, il est capable de faire beaucoup de choses. Hein. Et pourtant, il aimait le Seigneur. L'un et l'autre, le charnel et le psychique, ont fait l'expérience du salut. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas sauvés. Il y a des chrétiens qui, on le dit, ils sont sauvés. Le premier, c'est-à-dire le charnel, se caractérise par des comportements et réactions qui traduisent qu'il y a encore chez lui une dominante marquée par la chair. C'est-à-dire, on l'appelle charnel. La nature sensuelle est bien présente. Alors, la nature sensuelle, c'est beaucoup de choses. C'est peut-être la colère. Parce que quelquefois, on pense sensuel, on pense à des choses qui ont comportement à l'intimité, qui ont trait à l'intimité. Mais c'est pas ça. C'est pas seulement ça. La colère, l'emportement, la mauvaise langue, etc., etc. Ça, ce sont des chrétiens charnels. Marqués par la chair, le second, c'est-à-dire le psychique, est parvenu à maîtriser ses impulsions, c'est-à-dire qu'en apparent, il s'y paraît bien. Ses impulsions charnelles, les plus grossières, et Jacob était un homme qui était raffiné. Vous savez, il vivait sous les tentes, il était bien gentil, il faisait la vaisselle, on le disait. Hein, il avait l'air d'une... comme ça. Mais il témoigne fortement d'une activité de l'âme qu'il a du mal à contrôler. Et donc, il est appelé psychique. C'est-à-dire que c'est son psychique qui fonctionne. Et il se croit spirituel. Il s'imagine être spirituel, mais c'est son psychisme qui prend le dessus. Disons quelques mots sur le chrétien charnel. On reviendra sur le psychique tout à l'heure. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3 et au verset 1er, il est écrit, c'est Paul qui le dit, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Les Corinthiens nous fournissent le type, au chapitre 3 et au verset 3, de ce qu'est un chrétien charnel. Alors nous allons voir ça ensemble. Chapitre 3, verset 3, il est dit ceci. « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» Et puis après, il explique Paul. Hein, il dit « L'un dit, moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas, l'autre dit, je suis d'Apollo, l'autre dit, je suis de Christ. » Et comme aujourd'hui dans les églises, on dira « moi je suis de Jacques, je suis de Pierre, je suis d'Alain ». Enfin, vous n'avez qu'un pasteur, vous n'avez pas le choix, de toute façon. Vous êtes obligé de me supporter. Hein. Ben oui, c'est comme ça. Hein. Alors, on voit les jalousies et les disputes. Eh bien ça, c'est la caractéristique d'un chrétien charnel. Paul le dit. Et dans Galates, il nous est décrit finalement les œuvres de la chair. C'est la jalousie, c'est la médisance, c'est l'ivrognerie, c'est ceci, c'est cela. Enfin, vous retrouverez, hein, c'est dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Et tout cela décrit ce que sont les œuvres de la chair, et dans une certaine mesure, ce naturel s'impose dans la vie du chrétien. Il est chrétien quand même. Il participe au culte, il participe aux réunions de prière, il participe aux réunions d'évangélisation. Il est là, mais c'est une dominante chez lui. Et ça se perçoit à un moment ou à un autre. Devant le mal, et c'est particulièrement devant le mal que les choses se révèlent, ces réactions sont encore trop épidermiques, directes, immédiates, violentes. Donc mauvaises. Il adhère davantage aux impulsions de la chair, c'est-à-dire avec des réactions primaires et animales, qu'aux impératifs ascendants et sanctifiants de l'esprit. Les fruits de l'esprit, l'amour, la douceur, la joie, la patience, la tempérance, la maîtrise de soi, etc., etc. Et on voit à ce moment-là si ça vient d'en haut ou si ça vient d'en bas. C'est clair. Et Paul dit que ce sont des bébés en Christ. Ce sont des enfants de Dieu, mais ce sont des bébés en Christ. Je dis que le vieil homme n'est pas mort. Vous connaissez le vieil homme? Est-ce que vous avez gardé sa photo? Non. Ouais. Le vieil homme n'est pas mort. Dans le chrétien charnel, sa mentalité, une mentalité qui n'est pas une mentalité quelquefois bonne, mais une mentalité qui est beaucoup plus imprégnée par la mentalité du monde que la mentalité chrétienne. Des habitudes, des façons de faire, des façons de penser, un mauvais caractère, parfois, j'ajoute, la mauvaise humeur, enfin, la susceptibilité, parce que ça c'est de l'orgueil, hein, la susceptibilité, l'esprit est trop faible, le corps à ce moment-là gouverne et l'âme oscille entre le spirituel et les instincts naturels. Et c'est pour ça qu'il y a une dualité, c'est pour ça qu'il y a des conflits, c'est pour ça qu'il y a de la culpabilité, et on peut dire que c'est le stade de l'enfance. On parlait de bébé en Christ. Eh bien, c'est le stade de l'enfance. Il y a toutes sortes de choses. Et vous savez pourquoi il y a des conflits entre les chrétiens ? C'est très facile à comprendre, c'est que les gens eux-mêmes sont en conflit avec eux-mêmes. Et parce qu'ils sont en conflit avec eux-mêmes, ils transposent leurs conflits personnels sur les autres. Et ça c'est clair, hein, pour se faire d'illusions. Hein. Parce que quand un homme est un homme de paix, il va amener la paix. Mais quand on est dans la guerre, en soi-même, eh bien, on va automatiquement, même sans s'en apercevoir, on va amener la guerre autour de nous. C'est normal. Je veux dire, ce serait étonnant du contraire. Non, ce n'est pas étonnant si le Saint-Esprit est là. Parce qu'on peut quelquefois être dans un état de conflit personnel, mais si l'Esprit domine à ce moment-là, eh bien, il va changer la nature des choses. Et au lieu de répondre par un coup de poing, eh bien, on va aimer à ce moment-là. Ça, c'est le miracle de Dieu. Il est semblable, par exemple, à un peuple qui s'est affranchi du pouvoir tyrannique ou je ne sais quoi, et qui n'a pas encore trouvé ça. Finalement, eh bien, la force de s'affranchir et d'avoir trouvé sa propre identité. Et c'est que beaucoup de chrétiens sont dans l'ignorance de leur propre identité, de leur identité en Jésus-Christ, de leur identité spirituelle aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes. À cet état, il y a une solution. Première chose, c'est dans Romains, il nous est dit ceci. Romains 8, 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ça, il faut le savoir. Si nous vivons de cette manière, en chrétiens charnels, ne nous font pas plaire au Seigneur. Le Seigneur ne peut pas se complaire à ce que nous sommes, à ce que nous disons, à ce que nous faisons. Ce n'est pas pour ça qu'il va nous rejeter. Hein. Parce qu'il va travailler pour que nous nous convertissions. Enfin, ou que nous nous reconvertissions et que nous nous améliorions, que nous changions, ou qu'il nous change plutôt. Et puis le deuxième point, c'est dans Romains chapitre 2, il nous est dit que la loi de l'esprit de vie, vous vous rendez compte, la loi de l'esprit de vie, moi j'aime beaucoup ce terme, c'est une loi de l'esprit de vie en Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, qui n'est pas seulement dans le monde, mais qui est déjà au fond de mon propre cœur. La loi de l'esprit de vie qui suppose une mort avec Christ. Et c'est quand nous mourons avec Jésus-Christ que nous commençons à vivre. À partir du moment où je ne veux pas mourir à moi-même, eh ben finalement, eh bien c'est le vieil homme qui l'a, c'est le moi, et puis c'est mes prétentions, c'est mes idées, c'est mes sentiments, c'est tout ce que je voulais. Mais à ce moment-là, le Seigneur reste toujours à la porte. Et ça suppose une mort avec Christ. Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans les épîtres des apôtres, combien de fois il nous est parlé de mourir à nous-mêmes. Alors c'est pas facile de mourir, hein, parce qu'on ne veut pas mourir. Et pourtant c'est une nécessité de mourir à soi-même. Et si nous mourons avec Jésus, ce qui est formidable, c'est que la Bible nous dit que nous ressuscitons avec lui. Parce que ça ne s'arrête pas à la mort. Parce que c'est une doctrine qui serait erronée et une doctrine qui serait incomplète quand on parle seulement de mourir à soi-même sans parler de la résurrection. Le grain de blé, comment ça se passe ? Qui est semé en terre ? Il faut qu'il meure pour porter du fruit. Qui équivaut à un reversement de pouvoir dominateur sur notre être. C'est-à-dire que la chair est détrônée. C'est l'avènement ou la libération et l'avènement et la libération de l'esprit. Selon Romains, chapitre 6, verset 4 à 11, vous pourrez le relire, il y a tout un passage qui est donné sur ce renversement. Maintenant, le chrétien psychique. Qu'est-ce qu'est le chrétien psychique ? Nous restons dans la même lignée, hein. Toujours l'âme. Hein. Le chrétien psychique, la définition, c'est celui qui se laisse diriger par les sentiments de son âme. Alors, on ressent beaucoup de choses à l'intérieur de nous-mêmes. On a un fonctionnement intérieur. Heureusement que les autres ne savent pas toujours ce qui s'y passe. Il y a des belles choses, il y a de bons sentiments, il y a de nobles sentiments, mais quelquefois, ce n'est pas toujours ça ce qui s'y passe, hein. Les sentiments de l'âme. L'intelligence, la logique humaine et terrestre, nos émotions, nos affections abusives, parfois même voire passionnelles, et que nous croyons venir de Dieu. Parce qu'il y a peut-être des passions qui sont saines, mais il y a des passions qui sont malsaines. Et même quelquefois, elles peuvent être légitimes tout en étant très très malsaines. Notre sentimentalisme et puis notre imagination. Imaginez-vous que nous avons un pouvoir extraordinaire. Ça se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Personne ne peut savoir ce qui s'y passe, mais alors quelquefois, nous sommes drôlement productifs en imagination. Nous pensons des choses. Et c'est une des activités de l'âme les plus désordonnées qui soit, si le Seigneur est en dehors. Elle part de bonnes dispositions, mais elle est faussée et ne peut nécessairement aboutir qu'à des résultats faux, d'où fréquemment les déceptions dans la vie des chrétiens, les frustrations dans la vie des enfants de Dieu, et parfois même des dépressions. Quand on parle de dépression, c'est pas seulement une dépression morale, mais ça peut être une dépression spirituelle. Parce que nous n'avons pas forcément respecté certaines choses. Ou nous ne savons pas certaines choses. Et je dis que le diable nous tient dans l'ignorance. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Si on ne lit pas la Bible, on ne saura pas, hein, ça c'est clair. Hein. Et si nous ne vivons qu'avec là les réunions d'évangélisation, ou de temps en temps les réunions de prière, et puis un culte par semaine, oh, vous savez qu'il nous faudrait au moins un culte par jour, non? Mais oui, il faut travailler quand même. Mais il faut justement s'entretenir. Alors, on comprend qu'il y a quelquefois beaucoup de misère dans le peuple de Dieu. Parce que c'est anarchique quelquefois. Et on peut dire que ce n'est pas l'homme, ce n'est pas l'âme, c'est l'esprit. Une âme malade qui ne produit que le malaise et qui génère le malaise aussi autour de soi. Quelquefois, c'est ça. C'est pour ça que je pense qu'il faut apporter un enseignement qui guérit les chrétiens. La connaissance des choses, la connaissance de ce que nous sommes, la connaissance du Seigneur, la connaissance du monde dans lequel nous vivons, pour que vous soyez guéris, que nous soyons guéris. Souvent, nous marchons, je l'ai dit, on est en convalescence, nous marchons comme des infirmes. Nous sommes paralysés dans certaines choses et les chrétiens souffrent parce qu'ils ont été heurtés, parce qu'ils ont été brisés, parce qu'on leur a fait du mal, parce qu'on les a abandonnés, parce qu'on les a maltraités, parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Et c'est l'âme qui prend. Et on comprend que quelqu'un qui est infirme sur le plan physique, eh bien on va voir, il manque une jambe ou il manque un bras. Mais sur l'âme, ça ne se voit pas, ça. Hein. On parlait l'autre jour de bleu, d'échymose, de contusion à l'âme. Et ça, c'est le Seigneur qui va guérir tout cela. Il n'y a que lui qui peut le faire. Jacques fait mention de ce désordre de l'âme qu'il représente sous la forme d'une certaine sagesse. Quand il dit cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, c'est-à-dire du Saint-Esprit, mais elle est terrestre, elle est charnelle, et on l'a dit tout à l'heure, quelquefois elle peut même voir être diabolique. Elle a toutes les apparences d'être spirituelle, mais elle émane du « je » charnel, c'est-à-dire du « moi ». Elle est psychique, c'est le « moi » qui s'affirme, la personnalité n'est pas encore soumise, et elle refuse de se soumettre. Ça, c'est le drame. Certes, cette activité psychique dégagera l'enthousiasme, elle peut dégager l'effervescence, une fièvre religieuse, l'admiration. Elle va glorifier la chair et pas le Seigneur. Elle va glorifier l'homme, mais pas Dieu. Elle consacrera ses talents, ses dons, mais ne produira rien parce qu'elle ne le peut pas. Et quelquefois, c'est ce que nous voyons dans des communautés religieuses, des communautés même évangéliques. Quelquefois, c'est ce que nous voyons chez certains frères et sœurs. Il y a de l'enthousiasme, il y a de l'effervescence, il y a toutes sortes de choses. Mais quand on y regarde, c'est la production de l'âme, mais ce n'est pas la production de l'esprit. Et vous savez qu'il y a certains qui se disent prophètes, apôtres, pasteurs, et tout ce que vous voudrez, et qui savent bien exploiter finalement les émotions de l'âme chez les gens. Et les gens ont la sensation de vivre quelque chose de fort. Ils ont la sensation de vivre quelque chose de quasiment sensuel, quelque chose que l'on touche. Alors ils se disent, eh bien maintenant j'ai retrouvé une nouvelle vie spirituelle, mais ce n'est pas la vie spirituelle. Ce n'est qu'un ersatz de la vie spirituelle, c'est une illusion de vie spirituelle. Parce que s'ils s'aperçoivent où ils vont, ils ne sont même plus sur la parole de Dieu. Et les enseignements qui leur sont donnés, ce n'est même plus la doctrine du Seigneur. Ce sont des extrapolations. Ce sont des choses qui sont là pour faire vibrer l'âme. Ça ne veut pas dire que quand on est spirituel, notre âme ne vibre pas. Il faut qu'elle vive au rythme de l'esprit et en tempo avec l'esprit. Et non pas avec des émotions, avec ce qu'on entend, et puis toutes sortes de choses qui appartiennent plus au corps que finalement à l'esprit. Et ça, c'est important. C'est à l'origine de toutes les doctrines qui passent actuellement et qui sont en train de faire un ravage terrible. Mais faut-il le dire? Et moi, je le dirai. Attention. Attention à nos âmes. Et particulièrement ceux qui sont un petit peu intentinés artistes, et rêveurs, éthérés. Vous savez qu'ils sont entre la vie, entre le ciel et la terre. Méfions-nous des idéaux, même chrétiens, si nous sortons du contexte de la parole de Dieu. Le beau, le vrai poussé à l'extrême, le sublime, la pureté, l'amour en majuscule. Méfions-nous de cela. Vous allez dire, j'exagère. Mais vous savez, on a vu quelquefois, en partant sur ces bases, que ça n'a pas amené les gens à Seigneur. Ça les a amenés à eux-mêmes. Ça les a amenés à toutes sortes de dépravations. Parce que vous savez, ça s'appelle une idolâtrie. Et vous savez ce qu'amène l'idolâtrie ? Ça amène la corruption. Et ça amène après la corruption des mœurs. Et quelquefois, on a vu des gens qui se croyaient tellement spirituels, mais qui n'étaient pas spirituels, qui étaient psychiques. Eh bien, ça les a amenés à tomber dans les péchés les plus grossiers. Et on a dit, mais comment ils en sont arrivés là ? On pensait qu'ils étaient si spirituels. Bon, ils n'étaient pas spirituels, c'est tout. La question, elle est là. Quand il est dit, même la musique et le chant, que le Seigneur soit béni pour nos cantiques. Hein. De toute façon, je ne veux pas dire le contraire. Mais quand il est dit, chantez à Dieu sous l'inspiration de la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas sous des émotions, c'est pas sous des vibrations, c'est pas sous un fluide qui passerait comme ça. Non, chanter sous l'inspiration de la grâce, ça veut dire chanter sous l'onction du Saint-Esprit. Et non sous les vibrations émotionnelles de l'âme. Tout ce que nous faisons reste soumis au même principe, inspiration du Saint-Esprit. Inspiration du Saint-Esprit. Tout ce qui est chair et âme tue. Seul l'Évangile vivifie et la parole de Dieu vivifie. L'élément psychique de l'intelligence agit en ce sens qu'il affirme une supériorité, une présomptueuse sainteté qui provoque la division, selon Jude. Homme sensuel n'ayant pas l'esprit. C'est ce que Jude nous dit dans la Bible. Et c'est vrai que cet élément psychique de l'intelligence pense que, parce que nous avons vécu des choses qui nous ont transportés, Paul aussi a été transporté, et il n'en parle pas. Il ne dit pas ce qu'il a vu, et il ne dit pas ce qu'il a été faire dans le ciel. Des choses ineffables. Et quand je vois quelquefois certains qui sont en train de raconter leurs expériences, qui sont, comment dire, soi-disant spirituelles, religieuses, mi-occulto, pseudo, en tous les cas, spirituelles, et qui frisent peut-être même quelquefois jusqu'à l'occultisme, parce qu'ils se sont fait avoir, alors, qui viennent et qui vous disent, mais vous savez, moi, je suis au-dessus de... Restons simples et modestes. C'est le Seigneur qui nous sanctifie. Si nous voulons fabriquer notre sanctification, nous allons tomber. Vous savez, nous ne sommes pas des anges. Ouais. Et qui veut faire l'ange, comme on dit, dites-moi la suite. Il y a un proverbe qui dit, qui veut faire l'ange, alors dites, fais la bête. Oui, ben oui, c'est un proverbe. Mais ils ont raison. Enfin, ce proverbe est juste. Qui veut faire l'ange, fait la bête. Et restons modestes. Restons humbles devant le Seigneur. Et ne prétendons pas être arrivés à ceci et cela. Soyons comme Paul. Il était modeste. Ce côté émotionnel, le chrétien psychique fonctionne avec ce qu'il ressent. Sa sensibilité est telle qu'il se trouve influencé par l'âme tout en imaginant être dans l'esprit. Et c'est ça le paradoxe. Ce tempérament anormal prétend atteindre les sommets de la spiritualité par le moyen des sens. Gesticuler. Quoique c'est pas... Je n'y vois pas d'inconvénient. Enfin, tant que vous ne montez pas sur les chaises. Souffler. Pouf. S'exciter ou à l'inverse, s'engourdir. Parce qu'il y a ça, il y a les deux sens. Le diable, il se fait un régal de manipuler les gens. Et même quelquefois les chrétiens. Les engourdir. Les bercer dans une paix qui n'est pas une paix de l'esprit, mais qui est une paix charnelle. Parce que je voudrais vous rappeler qu'il y a une justice. Qu'il y a un amour. Qu'il y a une vérité. Qu'il y a bien autre chose de l'esprit. Vérité de l'esprit, amour de l'esprit, justice de l'esprit, mais il y a aussi la contrefaçon. Et ces phénomènes sensuels n'est qu'une influence de surface et passagère. Dernier aspect que j'aimerais placer devant vous, des excès psychiques, c'est la pensée et la volonté tantôt qui est surexcitée ou tantôt complètement affaissée. On le voit quelquefois. Il y a des chrétiens qui montent jusqu'au plafond, non, qui montent très haut, spirituellement, un jour ils sont tout excités, ils sont au grenier, puis le lendemain vous les trouvez à la cave. Là il y a un problème. Nous devons être équilibrés, frères et sœurs. C'est vrai. On doit être équilibré pour honorer le Seigneur. Le Seigneur ne nous a pas demandé, donc ça ne veut pas dire qu'on reste impassible et comme des glaçons, c'est pas ça. Mais je veux dire que, quelquefois, quand on voit des gens qui partent dans un sens excessif, et puis que le lendemain, vous les trouvez en pleine dépression, il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie spirituelle. Ça, c'est clair. Enfin, moi, pour moi, en tant que pasteur. Ce domaine est particulièrement vulnérable, c'est vrai. L'âme qui n'est pas contrôlée est capable de toutes les folies et de tous les débordements livrés aux circonstances, parce que nous sommes influencés par tout ce qui se passe autour de nous, naturellement. Elle a besoin d'être maîtrisée par le Saint-Esprit du Seigneur. Et la paix de Dieu, nous dit Paul dans Philippiens, est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il gardera dans l'équilibre. Ça, nous avons besoin de cela. Nos âmes ont besoin d'être entre les mains de Jésus. Et je termine. Cette parole que nous avons lue en introduction, je la reprends. Que le Dieu de paix, Dieu est un Dieu de paix, hein. C'est beau hein, comme appellation, il apporte la paix à son peuple. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Nous sommes en préparation de quelque chose de glorieux, mes frères et sœurs. Le ciel est notre destination. La gloire est notre destination. Nous verrons le Seigneur dans sa magnificence. Et ce que nous vivons sur la terre est une école de préparation. Et nous ne pouvons pas nous faire une idée de ce que ça va être. C'est pour ça qu'il nous est simplement dit, réjouissez-vous en espérance. Tout simplement. Alors si je reprends ce texte et je donne une conclusion très simple. Notre esprit est sanctifié. Quand ? Il est pénétré par le Saint-Esprit de Dieu, qui y fait régner la lumière et la vie. On peut définir les choses comme ça. Notre esprit est sanctifié quand l'Esprit de Dieu pénètre notre esprit et que là, eh bien, il y répand le rayonnement de sa lumière et de la vie. Notre âme est sanctifiée quand toutes les impressions, les affections, les élans sont placés, nos élans sont placés sous la domination de notre esprit restauré. D'abord, ensuite, c'est notre esprit qui va influencer notre âme. Notre esprit restauré, et qui lui-même est restauré par le Saint-Esprit de Dieu. Donc, c'est en étape, mais dans le bon sens. Notre corps est sanctifié quand ses instincts, ses appétits, ses besoins sont élevés et purifiés par l'influence respective de l'âme, de l'esprit, et que tous ensemble, c'est-à-dire ce que Paul appelle notre être, servent à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et les choses sont remises en place. Et tout est en ordre. Dans cette hiérarchie rétablie par le Saint-Esprit, alors à ce moment-là, eh bien, nous pouvons dire que Dieu règne. Que Dieu, eh bien, là, a sa place. Et notre esprit étend son emprise bienfaisante sur notre âme, et l'âme sur le corps, esprit, âme et corps. Voici l'ordre qui distingue le chrétien spirituel et qui fait de lui un homme fait, selon les propos de Paul, fait à la stature de Christ. Nous sommes exhortés à offrir nos corps comme un vivant sacrifice. Nos corps, comme un vivant sacrifice. Nous sommes appelés à être transformés par le renouvellement de l'intelligence, notre âme. Et il nous est donné cette injonction, soyez remplis de l'esprit. Dans un autre passage, la plénitude spirituelle. Et si je donne simplement une dernière pensée, je dirais que l'esprit est le maître qui donne ses ordres dans le silence et qui s'inspire de notre compréhension, de notre relation avec Dieu, de notre lecture de la parole, de notre entretien journalier et permanent avec notre Seigneur. Je dirais que l'âme est l'intendant, si l'esprit est le maître, l'âme est l'intendant qui fait exécuter les ordres du maître, sans se prendre pour le maître, parce que quelquefois l'âme peut être dominatrice, hein, sans se prendre pour le maître. Et je dirais que le corps est le serviteur docile qui obéit, et non pas le contraire. Que le Seigneur nous aide ce matin, à travers cette parole. J'espère que ce n'était pas trop difficile, mais je pense que nous avons besoin d'être enseignés parce que je ne veux pas, et nous ne pouvons pas nous permettre de rester dans l'ignorance de ces choses. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous bénisse. Et je m'adresserai à chacun et à chacune, et je dirai à tous ceux qui sont malades de l'âme, Oui, mes frères et mes sœurs, le Seigneur est venu pour vous guérir et vous restaurer. Parce que ça, c'est la bonne parole et c'est la bonne nouvelle qu'il est venu nous annoncer. Que le Seigneur nous aide. Nous allons prier quelques instants et nous allons nous incliner devant Dieu. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que qui sommes-nous ? Qui suis-je, Seigneur, moi-même en premier, pour, en effet, Seigneur, avoir tout compris et, Seigneur, en effet, être véritablement, Seigneur, arrivé au but ? Oui, Seigneur, je veux te rendre grâce et te remercier parce que tu nous as laissé cette parole où tu nous dis « car Dieu est fidèle et c'est lui qui le fera ». Et ça, je te rends grâce. Je te rends grâce que ce n'est pas moi qui vais le faire. Je te rends grâce, Seigneur, de ce que ce n'est pas, en effet, les hommes qui vont le faire pour moi, ou qui vont me pousser, Seigneur, à le faire. Mais, Seigneur, c'est dans la mesure où, véritablement, Père éternel, je viens tous les jours. Tous les jours que tu me donnes de vie, tous les matins, Seigneur, que tu me donnes de voir la lumière. Alors, à ce moment-là, je peux te dire, Seigneur, sanctifie mon esprit, sanctifie mon âme et sanctifie mon corps. Mais dans ce sens, Seigneur. Et je veux te rendre grâce et te remercier parce que quand tu m'as pris, j'étais véritablement cassé. J'étais malade. J'étais complètement défait. J'étais décomposé. Nous étions dans cet état. Mais Seigneur, ton amour a été au-dessus de tout cela. Et tu nous as vus, Seigneur, prêts à être reconstruits. Tu nous as rendus capables de croire que la reconstruction ou la réparation était possible. Et je te rends grâce et je te remercie, Seigneur, parce qu'il y a probablement du chemin qui a été parcouru. Mais il y a, je le sais, ne serait-ce que pour moi-même, encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais je crois, Seigneur, je crois à ta grâce, je crois à ton amour. Je crois que, Seigneur, après nous avoir pris les uns et les autres, tu ne vas pas nous abandonner, certainement pas. Tu vas nous préparer, Seigneur, pour la glorieuse étape du ciel, la glorieuse position et demeure du ciel. Et nous voulons te rendre grâce et te remercier, Seigneur. Je te prie pour mes frères et mes sœurs, qui, Père éternel, sont tiraillés, livrent des batailles, des dualités, sont en conflit, Seigneur, entre leur corps, leur âme et leur esprit. Alors que, Seigneur, ils sont, et nous sommes souvent comme Paul, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est attaché à moi. Et Seigneur, en effet, Père éternel, combien, Seigneur, nous avons de batailles à livrer. Combien nous livrons, Seigneur, des doutes. Nous doutons de ceci, nous doutons de cela. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, c'est dans la mesure où ce matin, les uns et les autres, nous venons devant toi dans ce temps de prière, et nous te disons, Seigneur, prends tout, Seigneur. Prends notre être entier, esprit, âme et corps, et donne-nous, Seigneur, une nouvelle impulsion, et donne-nous surtout d'être conduits par ton Saint-Esprit. Merci, Jésus, merci pour le Sauveur que nous avons en Jésus-Christ. Merci pour le Seigneur que nous avons en Jésus. Et merci pour ta parole, merci pour le Saint-Esprit, et merci pour, en effet, toi, notre Père, qui nous aime et qui nous aime tant. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. Amen.